France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Gwendoline Troiano, Barthélémy Gaillard, Louise Cognard et Antoinette Benoît, réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Olivier Arnay. Les juges peuvent-ils rester garants de la démocratie? C'est le dernier épisode de notre série sur des batailles engagées par le pouvoir judiciaire face à l'exécutif. Nous avons parlé lundi des juges américains, les juges fédéraux, qui ont tenté de suspendre plusieurs décrets pris par Donald Trump dès son investiture. Mardi, de la Cour suprême en Israël, que le gouvernement Netanyahou essaye toujours d'affaiblir. Hier, de l'Italie, où Giorgia Meloni multiplie les procès d'intention aux juges qui voudraient, dit-elle, gouverner à sa place. Aujourd'hui, à Hong Kong, vers la fin d'une exception, comme le redoute notamment Jimmy Lai, jugé pour collusion avec des forces étrangères.
La chose la plus habile que le Parti communiste chinois puisse faire est de susciter la peur afin de vous maîtriser. Je refuse d'y céder.
Personne ne peut s'engager dans des activités illégales sous le couvert de la liberté et tenter d'échapper aux sanctions légales. Jimmy Lai est le principal organisateur et participant du chaos anti-chinois à Hong Kong. Il est un agent et un laquais des forces anti-chinoises.
Monsieur Lai représente l'esprit de Hong Kong. À son arrivée à Hong Kong, il était admiratif de l'atmosphère de démocratie et de liberté qui y règne. Étant un Hongkongais d'une génération similaire à la sienne, je ressens aussi ce désir de liberté. Malgré les difficultés, je dois le soutenir, car c'est un modèle.
Son procès a commencé en décembre 2023, il est toujours en cours. Jimmy Lai, 77 ans, ancien patron du journal Apple Daily qu'il a créé en 1995, a été inquiété dès l'entrée en vigueur en 2020 de la loi sur la sécurité nationale, une loi voulue et dictée par la Chine dont Hong Kong est toujours officiellement une région administrative spéciale, texte présenté alors comme nécessaire pour garantir la stabilité du territoire. Jimmy Lai est donc aujourd'hui de ces Hongkongais accusés de conspiration et de collusion avec des forces étrangères, en l'occurrence avec les États-Unis. Le procureur en veut pour preuve des échanges qu'il a eus à l'époque avec Mike Pompeo ou Mike Pence sous le premier mandat de Donald Trump. Il appartiendra au juge d'en décider à l'automne prochain, mais il se trouve que ces juges n'ont pas été désignés par la Cour suprême, comme c'est le cas en général, mais par l'exécutif hongkongais proche de Pékin, comme dorénavant pour tous les procès qui relèvent de la loi sur la sécurité nationale. Un changement majeur dans cette région administrative dont la loi fondamentale garantit l'indépendance, y compris de la justice, vis-à-vis de la Chine, jusqu'en 2047, conformément aux accords sur la rétrocession signés entre Pékin et le Royaume-Uni. À Hong Kong, le système juridique est toujours hérité de la common law et de l'époque où elle était un territoire britannique d'outre-mer. Que reste-t-il aujourd'hui de cette exception? Et quelles sont encore les marges de manœuvre des magistrats pour garantir une justice indépendante? Nous en parlons ce matin avec nos invités. Bonjour Virginie Kwok.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes doctorante en droit constitutionnel comparé à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, autrice d'une thèse sur l'utilisation du droit étranger par les juges constitutionnels à Hong Kong, mais aussi en Malaisie et à Singapour. Il est 18h04 à Hong Kong. Vous êtes Jean-Pierre Cabestan. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à Asia Centre Paris. Votre dernier livre est consacré à Deng Xiaoping, révolutionnaire et modernisateur de la Chine, paru l'année dernière aux éditions Talendier. Alors Jean-Pierre Cabestan, puisque vous êtes à Hong Kong et que la presse hongkongaise en fait les gros titres depuis quelques heures, et je remercie le chercheur Eric Sautedé de me l'avoir fait savoir ce matin, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de l'arrêt que vient de rendre la plus haute juridiction de Hong Kong, qu'on n'appelle pas la Cour suprême mais la Cour d'appel finale, l'annulation de la condamnation de trois personnes que des juges en première instance avaient reconnues comme agents de l'étranger? Que s'est-il passé cette nuit?
Oui, c'est ce matin que la décision est tombée. La Cour d'appel finale a donc invalidé une décision prise l'an dernier. En 2023, ça fait maintenant pratiquement un an et demi, deux ans, contre trois des organisateurs de cette alliance patriotique pour le mouvement démocratique, les mouvements démocratiques en Chine, qui était l'organisation qui organisait, si vous vous souvenez, la commémoration chaque année du massacre du 4 juin
de Tiananmen.
Donc commémoration qui avait lieu régulièrement au Victoria Park, au plus grand parc de l'île de Hong Kong, le parc Victoria. Et donc ces trois responsables, ces trois organisateurs avaient été condamnés comme agents de l'étranger, mais sur la base de déclarations du chef de la police qui n'apportait aucune preuve. En fait, c'était juste des présomptions que le chef de la police avait contre ses responsables. Et donc, c'était une décision qui était fondée sur aucun élément de preuve tangible. Donc, cette décision a été donc invalidée par la Cour d'appel finale, qui a considéré que c'était une erreur judiciaire. Et donc, le problème, c'est que ces trois responsables ont fait quand même 4 ans et demi de prison, hein, et ils ont déjà purgé leur peine. Donc, enfin, c'est quand même assez, c'est un peu tard pour redresser une soi-disant erreur judiciaire. Quoi. Donc, voilà, c'est quand même une bonne nouvelle qui montre quand même, pour répondre à votre question, qui est la question de l'émission, c'est qu'il y a certains juges restent assez indépendants, y compris à la juridiction suprême de Hong Kong. Le problème, c'est que l'Assemblée nationale, on revient à Pékin, le comité permanent de l'Assemblée nationale peut invalider cette décision en réinterprétant la loi. Donc, c'est pas forcément une décision complètement finale.
Hein. Voilà,
donc
c'est pas là, une décision. Voilà, il peut toujours y avoir des recours. En attendant, cette juridiction suprême a estimé que l'accusation avait échoué à fournir la preuve que ces trois personnes étaient des agents de l'étranger. Bonne nouvelle, certes, avec tous les bémols que vous venez de mettre, Jean-Pierre Cabestan. Et Eric Sautedet me disait aussi que l'un des plaignants avait dû vendre son appartement pour couvrir les frais d'avocat. Ça coûte cher aussi à Hong Kong de bien se défendre. Qui donne quand même cette décision un espoir à tous ceux qui espèrent que la justice fonctionne encore telle qu'elle fonctionnait avant la loi 2020 sur la sécurité nationale, même si, Virginie Kwok, la Cour suprême était attendue cette nuit sur une autre affaire, la condamnation cette fois d'un animateur de la radio dont vous m'avez dit juste avant que l'émission commence que vous l'aviez déjà croisé quand vous étiez étudiante à Hong Kong parce que vous vouliez faire de la radio, vous aviez pris quelques cours et il était là, ce Tam Tak Chi, qui a été condamné pour sédition pour avoir dit à l'antenne en 2020 « Glory to Hong Kong, revolution of our time ». Cette fois, la Cour n'a pas statué en sa faveur. Pourquoi ?
Alors en fait, Tam Tak Chi, qui est l'animateur de radio en question, a été condamné pour sédition. Et en fait, non pas sur la base de la loi de sécurité nationale, mais sur une loi pénale qui a été adoptée en fait pendant la colonisation britannique.
Et c'était la première fois, d'ailleurs, depuis l'époque coloniale, que quelqu'un était jugé pour sédition en vertu de cette loi-là.
Oui, et c'est la première affaire...
Depuis la rétrocession, pardon.
Depuis la rétrocession, première affaire qui est allée jusqu'à la Cour suprême en matière de sédition. Et ce qui a été contesté par Tam Tak Chi depuis les décisions de première instance, c'est que... cette affaire devait être jugée par la Haute Cour de Hong Kong, la High Court of Hong Kong, notamment parce que la sédition est un crime grave. Sauf que lorsqu'une affaire pénale est jugée devant la High Court, il doit avoir un jury populaire. Et Tam Tak Chi conteste cela et conteste la compétence de la District Court qui a été compétente dans son affaire. Et donc, la Cour suprême aujourd'hui a décidé que, en effet, en matière de sécurité nationale, il y a plusieurs possibilités de crimes, des crimes plutôt légers, des crimes beaucoup plus graves. Et dans son cas à lui, même si c'était une affaire de sédition, son crime n'était pas considéré comme assez grave pour aller juste devant la haute cour. Et donc, la district court était compétente. Et le deuxième point de droit qui a été jugé par la Cour suprême ce matin était de savoir est-ce qu'il fallait prouver une incitation à la sédition. Et justement, le juge a considéré que dans son cas, lui, de Tham Tak Tit, il n'y avait pas besoin de prouver de la part des procureurs qu'il y avait justement une incitation à la sédition.
Et que le simple fait qu'il ait prononcé ces mots à l'antenne justifiait sa condamnation. Donc ils ont jugé, non pas sur le fond, mais plus sur la forme en quelque sorte. Alors, il avait été condamné non pas en vertu, vous le disiez, de la loi sur la sécurité nationale, mais d'une autre loi qui date de l'époque coloniale. Néanmoins, est-ce que les procès provoqués par la mise en application de la loi sur la sécurité nationale, donc promulguée en 2020, font l'objet d'appels comme les autres, jusqu'au recours auprès de la Cour d'appel finale, la Cour suprême. Est-ce que ceux qui sont condamnés en vertu de cette loi peuvent tous faire appel?
Oui, alors ce qui est quand même protégé par le système juridique hongkongais, c'est justement le fait que lorsque un requérant n'est pas satisfait de la décision rendue par une cour de première instance, peut aller jusqu'à la Cour suprême pour contester la décision. Ensuite, comme l'a précisé tout à l'heure le professeur Cabestan, c'est que Pékin a toujours la main sur l'interprétation de la loi de sécurité nationale, mais également la main sur l'interprétation de la loi fondamentale. Donc, on n'est jamais à l'abri d'une interprétation. Et c'est ce qui s'est passé depuis 97. De nombreuses interprétations ont été délivrées par Pékin. Et Pékin peut interpréter à n'importe quel moment, en dehors ou pendant une affaire, lorsqu'il considère qu'il est important d'interpréter soit la loi fondamentale ou la loi de sécurité nationale.
C'est précisément le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale qui est un organe de Pékin, qui est compétent pour interpréter ce qu'on appelle à Hong Kong la mini-constitution ou la Basic Law, cette loi fondamentale de 1997. Jean-Pierre Cabestan, est-ce que les juges hongkongais et ce comité permanent de l'Assemblée populaire nationale sont compétents sur les mêmes textes, dans les mêmes circonstances? Comment se joue ce bras de fer-là à chaque fois qu'il a lieu? Dans quelles circonstances est-ce qu'on demande au comité permanent de l'Assemblée populaire nationale à Hong Kong d'interpréter un texte de Hong Kong?
Non, pas forcément, surtout quand les juges prennent une décision qui va dans le sens des intérêts de Pékin. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a cette loi de sédition qui date en fait de 1938, mais qui a été remplacée en 2023 par la loi de sécurité nationale et dictée par le gouvernement de Hong Kong. En fait, il y a deux lois de sécurité nationale à Hong Kong. Et pourquoi je parle de ces deux lois? Parce que en fait, elles restreignent beaucoup la marge de manœuvre des juges. Ils sont obligés d'appliquer ces lois qui sont extrêmement strictes sur à la fois la sédition, la subversion et les autres crimes ou atteintes à la sécurité nationale. Pour la sédition, en fait, déjà la loi de 38 laisser la possibilité aux juges de condamner des crimes de sédition sans qu'il y ait pour autant une intention de violence ou une intention de provoquer un désordre public. Par exemple, le cas de Tham Tak Tit est assez caractéristique du fait qu'ils sont appuyés sur cette loi coloniale qui a été maintenant remplacée par cette loi de sédition, mais qui dit là exactement la même chose, que des propos séditieux, jugés séditieux par un tribunal, peuvent conduire à une condamnation. Par exemple, révolution de notre temps, gloire à Hong Kong, en chinois en fait c'est gloire à Hong Kong, révolution de notre temps, Guangfu Xiangkang. Et Shetai Gomig, en fait, c'est le slogan du mouvement de 2019 qui a été transformé en le champ de ralliement de ce mouvement. Et prononcer ces paroles, ça a été considéré comme séditieux, alors qu'il n'y avait pas du tout d'intention de violence ou de provoquer un désordre public. Mais donc, ça montre bien l'ampleur, le champ d'application de ces deux lois aujourd'hui de sécurité nationale. Et donc ça, si vous voulez, ça coince les juges quand même qui sont obligés d'appliquer la loi et sur des questions qui sont parfois très très politiques.
Virginie Kwok, où est-ce qu'ils se tiennent tout simplement physiquement, en fait même géographiquement dans Hong Kong, les procès qui ont lieu en vertu, toujours c'est l'expression qu'on utilise en loi ou en droit, en vertu de cette loi sur la sécurité nationale?
Alors, comme je vous l'ai dit, les procès en matière de loi de sécurité nationale.
Vous m'avez dit pas à l'antenne, c'est pour ça que je vous le fais raconter.
Je vous l'ai dit en off, que les procès en matière de violation de la loi de sécurité nationale se tiennent dans les locaux de la West Kowloon Court, qui est en fait une juridiction de première instance pour des délits qui sont pas très graves. Et en fait, ce bâtiment a été construit en 2019. Après 2019, en fait, suite aux nombreux procès qui ont eu lieu, notamment après ce qui s'est passé en 2019.
Vous voulez dire que par anticipation de la loi sur la sécurité nationale.
Ils avaient déjà construit ce bâtiment parce qu'ils savaient que ces procès-là allaient accueillir un public qui sera important. Et sauf que en fait, comme ces procès sont par exemple, je prends l'exemple de l'affaire de Jimmy Lai, qui est un procès devant la High Court of Hong Kong, notamment parce que collusion avec les forces étrangères est un crime grave, devait être dans les locaux de la High Court, sauf que la High Court est située dans un quartier au centre de Hong Kong et c'est une cour qui est physiquement pas très grande pour accueillir tout ce monde-là. Du coup, le procès de Jimmy Lai et comme le procès des 47 démocrates, par exemple, se tiennent à la cour de West Kowloon, qui se situe dans trois salles d'audience, la salle d'audience principale et puis deux autres salles d'audience pour le public et c'est retransmis en fait en direct pour le public.
À la reprise du procès de Jimmy Lai, ou en tout cas quand ça a été à son tour de prendre la parole en novembre dernier pour son procès, Jean-Pierre Cabestan, il y avait des files d'attente invraisemblables devant le palais de justice de West Kowloon, des centaines et des centaines de personnes qui attendaient même la nuit, même sous la pluie, pour écouter Jimmy Lai témoigner lors de son procès. Est-ce que ce procès est toujours suivi? Où en est-on de cette affaire-là?
Oui, je pense que Jimmy Lai, c'est une personnalité. Hein. Ici, il y avait un soutien important. L'Apple Daily News a son journal. Le Pingo Leba était un journal que beaucoup de gens achetaient. Alors, qui était un journal qui, à la fois, promouvait les idées démocratiques, était surtout très critique à l'égard du Parti communiste chinois. Mais aussi, c'était un journal un peu de sensationnel. Hein. C'est avec pas mal de nouvelles locales assez sensationnalistes. Mais ça, c'était le style du journal de Jimmy Lai. Cela étant, c'est une personnalité qui reste quand même dans l'opinion très populaire, hein, en dépit de ce que dit Pékin et les médias pro-chinois, pro-Pékin, en tout cas pro-communistes, hein, y compris à Hong Kong. Donc, ce procès est suivi par beaucoup de gens, sans beaucoup d'espoir, parce qu'on sait que c'est un cas emblématique et Pékin veut en faire une victime exemplaire, hein, si vous voulez. Il y a peu d'espoir qui sortent, je dirais, vivant de prison. Hein. Il a 77 ans et s'il est condamné à 10 ou 15 ans de prison, il a peu de chance qu'il sorte vivant. Hein.
L'accusation.
Donc ça, c'est quand même la situation. Les accusations sont nombreuses, comme vous savez, il y a plusieurs accusations. La plus importante, c'est celle de conspiration, de collusion avec des forces étrangères. Alors, ils essayent par tous les moyens de montrer qu'il a reçu de l'argent d'étrangers, il était soutenu par des personnalités, certaines administrations du gouvernement américain. C'est ce qu'ils essaient de démontrer sans beaucoup de preuves. Ce qui est vrai, c'est qu'il avait des contacts avec l'étranger, mais c'est pas en soi un crime. Mais ça, c'est donc on attend encore le résultat, mais je suis pas très optimiste sur la sentence qui va être prononcée contre lui.
L'accusation soutient que Jimmy Lai a plusieurs fois demandé aux États-Unis d'imposer des sanctions ou un blocus à la Chine. Lui a pu expliquer ce qu'il faisait en 2019 lors de quelques réunions qu'il a faites avec le vice-président américain de l'époque, Mike Pence, et le secrétaire d'État Mike Pompeo. Il dit qu'il ne leur a pas demandé de faire quelque chose, mais de dire quelque chose pour soutenir Hong Kong. Enfin, bien sûr, il est très difficile de résumer de très longs mois de procès. Il se trouve, Virginie Kwok, que vous avez assisté à une partie parmi les audiences. Jimmy Lai, qui plaide non coupable, est-ce qu'il a eu toute la latitude pour se défendre et pour défendre le rôle que jouait, d'après lui, son journal?
Oui, alors j'ai pu assister à quelques parties du procès, notamment lorsque, au mois de décembre et au mois de janvier, lorsque Jimmy Lai a pu témoigner devant la cour. Il s'est très bien défendu. Il s'est très bien défendu. Après, j'ai pas pu assister au contre-interrogatoire fait par le procureur. Du coup, j'ai seulement assisté à l'interrogatoire fait par son avocat, son propre avocat. Et Et il s'est tout le temps très bien défendu lorsque les questions lui ont été posées.
Voilà, sans en juger sur le fond, est-ce qu'au moins sur la forme, il a pu avoir les avocats qu'il demandait, par exemple? Et est-ce que, pour les audiences que vous avez pu suivre, est-ce que vous avez trouvé les juges dans une position de juge, c'est-à-dire ce qu'ils ont toujours été à Hong Kong jusqu'à présent?
Alors, oui, Jimmy Lai a pu avoir les avocats qu'il voulait. Il a pu désigner l'avocat qui allait son propre avocat qui allait lui poser les questions, parce qu'ils sont 6. Jimmy Lai est défendu par 6 avocats. Parmi les 6, il a choisi l'avocat qui allait faire son interrogatoire. Ensuite, il a aussi choisi la langue qu'il voulait utiliser pour répondre aux questions.
Dans quelle langue alors ?
En anglais. Pour des raisons qui lui est propre, mais il a choisi l'anglais pour répondre aux questions, alors qu'il aurait pu répondre en cantonais. Parce que c'est un procès qui est bilingue, et donc le cantonais et l'anglais sont simultanément traduits. Et les juges, par exemple, parlent anglais, répondent en anglais et posent leurs questions en anglais. Et parfois, il se trouve que les juges posent des questions un peu politiquement orientées à Jimmy Lai.
Par exemple,
on lui a demandé, et ça c'est assez bien relayé par la presse internationale, on lui a demandé s'il était la personne au milieu dans les relations entre Taïwan et les États-Unis. La personne du milieu qui va organiser toutes les rencontres entre les représentations de Taïwan et les représentations des différents membres membres du Parlement américain. Donc, on lui a posé ces questions-là. On lui a aussi posé des questions un peu plus délicates, par exemple, et ça, c'est très récent, je crois que c'était la semaine dernière, on lui a demandé s'il se considérait comme chinois.
Qu'est-ce qu'il a répondu ?
Il a dit non, je me considère comme hongkongais. Et ensuite, un des juges, Alex Lee, lui a dit, mais on pensait que vous étiez contre l'idée d'indépendance de Hong Kong. Et auquel Jimmy Lai a répondu « Oui, je suis contre l'idée d'indépendance de Hong Kong, mais je suis en faveur du principe d'un pays, deux systèmes. »
Qui est le système qui prévaut, ou les deux systèmes qui prévalent depuis la rétrocession, oui, et les accords de rétrocession entre le Royaume-Uni et la Chine. Et c'est un système justement qui est en train de péricliter et qui est mis en danger, comme le craignent tous ceux aujourd'hui qui observent la vie politique à Hong Kong. Mais ces magistrats, qui sont-ils ? Est-ce que ce sont les mêmes que ceux qui statuent dans des affaires qui ne relèvent pas de la loi sur la sécurité nationale ?
Alors, aujourd'hui, ce sont les mêmes juges qui statuent pour les affaires de sécurité nationale, parce qu'ils sont choisis par le chef de l'exécutif en vertu de la loi de sécurité nationale pour un an. Donc, pour un an, mandat renouvelable, ces juges vont statuer sur les affaires de sécurité nationale. Je parlais de Alex Lee tout à l'heure, qui est un des juges. Il a jugé notamment pour l'affaire des 47. Il juge aujourd'hui pour l'affaire de Jimmy Lai, et il va juger également pour l'affaire Alliance, qui va démarrer au mois de mai prochain.
Donc, toutes ces forces qui se prévalent aujourd'hui de défendre la démocratie à Hong Kong. Mais donc, ils sont choisis par l'exécutif. Ça, c'est quand même nouveau. C'est quelque chose que la loi sur la sécurité nationale a instauré. Jusqu'à présent, c'était la Cour suprême qui désignait des juges.
Oui, pour toutes les autres affaires hors loi de sécurité nationale, les juges sont choisis par un comité constitué du Chief Justice, qui est le président de la Cour suprême, des membres seniors parmi les barristers et les solicitors, et d'autres personnalités du monde juridique normal. Et justement, ces juges-là sont choisis par ce panel-là, et le chef de l'exécutif, et il l'a toujours fait, il confirme juste les choix. Or, ici, pour la loi de sécurité nationale, le pouvoir de nomination des juges est seulement entre les mains du chef de l'exécutif.
Alors, Jean-Pierre Cabestan, que disent ces procès, que ce soit celui de Jimmy Lai, qui est toujours en cours, que ce soit celui des 47 qui, eux, ont fait face à des juges, leur procès a déjà eu lieu, ils ont tous été condamnés jusqu'à 10 ans de prison. Qu'est-ce que ces procès-là disent de la fin de l'autonomie judiciaire à Hong Kong ? Est-ce qu'elle est palpable, cette fin de l'autonomie judiciaire, quand on suit les procès, quand on écoute même surtout les verdicts, puisque dans l'affaire des 47, le verdict a été rendu? Qu'est-ce que vous entendez dans les mots choisis ne serait-ce que ça, de ce déclin de l'autonomie judiciaire.
Les apparences d'affaires, si vous voulez, judiciaires ordinaires, en réalité, sont des procès politiques. Ce sont des procès politiques parce que les notions de sédition, de subversion, de trahison, de conspiration ont été complètement réinterprétées. Et leur définition s'est très très largement étendue. Et on voit bien que, notamment, les juges nommés par le chef de l'exécutif sont non seulement aux ordres du chef de l'exécutif, mais aux ordres de Pékin, hein, à la fois du bureau de liaison, mais aussi du bureau chargé de Hong Kong et de Macao, qui est un des organes du gouvernement central à Pékin. Donc là, il n'y a aucune autonomie. C'est une double contrainte, parce qu'il y a à la fois la contrainte politique, si vous voulez, des organes administratifs chinois, du Parti communiste, mais aussi la contrainte qui a été introduite par ces deux lois de 2020-2023, qui sont aussi extrêmement contraignantes. Quand on regarde le texte de ces lois, il y a quand même des notions qui sont très, très embêtantes et qui sont profondément politiques. Je prendrais comme exemple, le crime de promouvoir la haine du gouvernement central. Alors, qu'est-ce que vous appelez la haine, ou même le mépris, ou la désillusion, je ne sais pas exactement ce que veut dire la désillusion, mais enfin, le mépris ou la haine du gouvernement central, ça peut être interprété de manière extrêmement étroite, mais dans le cadre actuel, dans le contexte politique actuel, c'est évidemment interprété de manière très large. Et donc ça, c'est quand même ce qu'apporte, c'est le danger de et les restrictions aux libertés qu'apporte ces deux lois, et puis l'application des deux lois par les juges, des juges qui sont en l'occurrence des juges d'exception. C'est une justice d'exception par rapport à la justice ordinaire qui concerne les affaires civiles, les affaires économiques, qui là reste quand même ancré dans la tradition du common law. Sauf s'il y a une dimension de sécurité nationale qui peut apparaître dans un conflit économique, par exemple contractuel ou autre, la justice est rendue de manière assez, je dirais, un peu comme avant. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution, mais je pense que pour ce qui concerne la sécurité nationale, il y a une espèce d'ambiance quand même de peur et de contraintes politiques qui aussi a une influence sur les juges quand ils sont amenés à juger ces affaires. Moi, je connais des juges qui préfèrent rester en dehors de toutes ces affaires parce que c'est extrêmement difficile, à la fois psychologiquement, c'est quand même c'est difficile à supporter, puis aussi on sait que on est très surveillé. Donc il y a deux justices, si vous voulez, à Hong Kong. Et ça, c'est un peu ce qui existe. Enfin, c'est quelque chose qui n'existait pas avant 2020. Donc, ça, c'est vraiment la grande nouveauté.
Une justice qui continue à être à peu près indépendante pour ce qui ne relève pas de la loi sur la sécurité nationale. Une justice aux ordres aujourd'hui de Pékin pour tout ce qui concerne cette loi sur la sécurité nationale. C'est le cas, par exemple, de ces 47 activistes de 2019 qui voulaient être élus députés en 2021 et dont les juges ont estimé que leur projet était de renverser le gouvernement. Ils se sont appuyés pour ça sur les propos qu'avait tenus parmi ces activistes le professeur de droit Benny Tai, qui avait exposé en 2020 une stratégie, par ailleurs pas illégale. Il fallait, dit-il, que l'opposition remporte la moitié des 70 sièges du Parlement, bloque le budget à deux reprises, pour pouvoir ensuite, comme le prévoit la mini-constitution de Hong Kong, exiger du chef de l'exécutif qu'il démissionne. C'est ça qui a permis au procureur de le reprendre mot pour en disant les primaires armes constitutionnelles mortelles d'après lui. Donc ces activistes ont été pour certains condamnés à des peines allant jusqu'à 10 ans de prison ferme pour subversion. Vous le disiez, Jean-Pierre Cabestan, certains juges aujourd'hui sont très inquiets, d'autres démissionnent littéralement. C'est le cas du juge Jonathan Sumption qui estime que la Cour suprême non plus ne peut plus protéger l'état de droit.
Some UK officials and politicians try to weaponize the UK judicial influence.
Certains responsables et politiciens britanniques tentent d'utiliser l'influence judiciaire britannique pour cibler la Chine et Hong Kong.
We shall protect judges.
Nous ne devons pas permettre que cela se produise. Nous protégerons les juges de tout rang de ces interférences indues. Nos juges doivent être soutenus par nous tous pour leur courage, leur détermination à défendre l'état de droit à une époque d'interférences ouvertes de la part d'un certain nombre de pays utilisant des menaces et différents types de pressions.
Ici, c'est le chef de l'exécutif de Hong Kong qui désapprouve ce juge, Lord Sum Shion, et qui considère qu'il a trahi les juges hongkongais en démissionnant. Déjà, il faut comprendre, Virginie Kwok, pourquoi un juge britannique à Hong Kong, c'est juge étranger. C'est une particularité de la justice hongkongaise qui est liée aussi au statut de colonie britannique d'outre-mer de Hong Kong jusqu'en 97. Il y a des juges étrangers qui jugent à Hong Kong, qui siègent à Hong Kong.
Alors, c'est une spécificité locale. En fait, pendant les négociations pour l'adoption de la loi fondamentale, une question a été posée. Est-ce qu'il était nécessaire d'avoir des juges étrangers au sein de cette Cour suprême ? Et les négociateurs britanniques ont considéré que, puisque la Cour suprême allait être une cour récente avec très peu d'expérience, il fallait des juges étrangers pour des juges étrangers, c'est-à-dire des juges retraités des autres juridictions de common law, siègent à Hong Kong. Et cela a été contesté par Pékin. Et d'ailleurs, lorsque notamment une juge canadienne a été nommée, Beverly McLaughlin a été nommée, mais aujourd'hui elle n'est plus à la cour. Lorsque celle-ci a été nommée, Pékin a notamment considéré que cette personne n'était pas appropriée en raison son manque d'expérience à Hong Kong. Cette personne n'était pas appropriée pour siéger à la cour. Et c'est une spécificité qui existe depuis 80. Sauf que lorsque l'on remarque, notamment dans les affaires de sécurité nationale, notamment par exemple aujourd'hui les deux affaires qui ont été rendues, dans ces affaires-là, aucun juge étranger ne siège. Alors que d'habitude, il y a quand même un juge étranger qui y siège. Là, ce qui s'est passé, c'est que dans les deux affaires, on a le Chief Justice, les trois juges permanents, et puis un juge non permanent, mais qui est un ancien juge de Hong Kong, donc hongkongais ayant la nationalité hongkongaise, et aucun juge étranger aujourd'hui n'a siégé dans ces affaires de sécurité nationale. Ils siègent souvent dans des affaires qui sont moins politiquement orientées, notamment dans des affaires de droit fiscal ou droit de la famille ou autre chose, mais en tout cas tout ce qui concerne toutes les affaires qui concernent la loi de sécurité nationale, dans ces affaires-là, il n'y a aucun juge étranger qui y siège.
Parce que c'est stipulé dans la loi que aucun des procès provoqués par cette loi de sécurité nationale ne peut être mené par des juges étrangers, c'est écrit ?
Non, c'est pas écrit, c'est comme le choix reste entre les mains du chef de l'exécutif, en fait, il peut choisir n'importe quel juge pour siéger dans ces affaires de sécurité nationale. Il peut très bien choisir un juge étranger pour siéger dans ces affaires-là. Donc, c'est pas écrit et c'est seulement un choix discrétionnaire de la part du chef de l'exécutif.
En tout cas, malgré la démission de certains d'entre eux, de ces juges étrangers, que ce soit le juge Jonathan Sum Shion ou Lawrence Collins aussi, le président de la cour d'appel finale, lui, lors de ses vœux de début d'année, il a redit que les juges avaient pour mission de protéger l'état de droit. Donc, savoir si c'est encore une réalité ou une façon de se convaincre que c'est encore possible, toujours est-il que ce sont les mots qu'il a employés. Jean-Pierre Cabestan, vous parlez tout à l'heure d'une justice à deux vitesses ou de deux justices aujourd'hui à Hong Kong. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même encore une justice qui fonctionne, j'allais dire normalement, mais en tout cas comme avant la loi de sécurité nationale de 2020, toutes les affaires qui ne concernent pas des sujets politiques, est-ce que là les juges ont à peu près la latitude et notamment sur, je pense aux questions qui relèvent plus de valeurs sociétales, par exemple, est-ce que là, les juges peuvent faire valoir le droit ?
Oui, dans l'ensemble, oui. Ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que parmi la communauté des juges, que ce soit des hommes ou des femmes, il y a quand même une tendance très, qu'on appellera en anglais, law and order, c'est-à-dire, ils sont extrêmement sévères, hein, y compris pour des comportements, enfin, ou des délits ou des crimes qui sont mineurs, d'atteinte à l'ordre public, tout ça. Et ça, je l'ai pu le remarquer dans des affaires qui sont pas forcément politiques. Hein. C'est que les juges sont pas du tout indulgents avec c'est quand même une tendance qui s'est renforcée depuis 2020. Et on voit bien que... Et ça, c'est quand même... Je crois qu'en matière pénale, les sanctions, les peines sont quand même plus fortes maintenant qu'avant 2020. Mais dans l'ensemble, oui, je pense que la justice reste indépendante pour ces affaires, mais avec un état d'esprit qui est quand même assez, assez conservateur, si vous voulez, parmi les juges. Maintenant... pour ce qui concerne les affaires politiques, il y a eu quand même, comme vous avez évoqué, l'affaire des primaires, ce qui est assez scandaleux parce que, en fait, organiser les primaires, c'est un droit fondamental dans toute, si vous voulez, communauté politique à peu près libre.
610 000 personnes avaient voté d'ailleurs pour cette primaire officieuse.
Le problème, c'est qu'on les a accusés, si vous voulez, ils ont été accusés de crimes qu'ils n'avaient pas commis. On les a condamnés sur des intentions qu'on leur prêtait de vouloir renverser le gouvernement. Ces actes n'ont pas été commis. La seule chose qui a été organisée, les actes qui ont été commis, c'est d'organiser des primaires afin d'augmenter leurs chances d'avoir un plus grand nombre de sièges au Parlement. D'ailleurs, sans espérer complètement pouvoir gagner leur pari, parce qu'en fait, le Parlement, même à l'époque, était un Parlement où un certain nombre de sièges n'étaient pas véritablement ouverts aux élections. Seulement 40 des 70 sièges à l'époque étaient élus de manière véritablement démocratique. Vous aviez 30 sièges qui étaient élus par des collèges professionnels qui ne sont pas véritablement représentants démocratiques de la communauté. Donc c'est mais quoi qu'il en soit, ils ont criminalisé l'organisation des primaires dans le but, en fait, de décapiter le mouvement démocratique. Et aujourd'hui, comme vous savez, il y a maintenant une semaine, le Parti démocrate, qui était le dernier parti, si vous voulez, d'opposition encore en existence à Hong Kong, s'est sabordé parce qu'il n'a plus de raison d'être. Il n'y a plus de vie démocratique à Hong Kong. Et ça, c'est évident. Et il n'y a plus de liberté d'expression non plus. C'est extrêmement... Et c'est ça, c'est l'impact direct de ces deux lois de sécurité nationale, surtout la première qui était introduite en 2020. Donc là, et les gens savent très bien les peines qu'ils encourent s'ils s'aventurent à exprimer leurs opinions publiques de manière publique à Hong Kong.
C'est à leurs risques et périls aujourd'hui, en tout cas vous le disiez, pour ce qui concerne toutes les affaires qui elles relèvent davantage de valeurs sociétales, les juges continuent à s'opposer parfois à des demandes ou des lois du gouvernement de Hong Kong, de l'exécutif. La Cour d'appel finale a rejeté par exemple à l'unanimité en novembre des recours formés par le gouvernement de Hong Kong pour empêcher l'élargissement à l'héritage et au logement social des droits des couples de même sexe. La représentante de l'exécutif pour ce procès, elle avait dit que la politique du logement était conçue pour favoriser la procréation, ce à quoi le juge a rétorqué que tous les couples hétérosexuels qui accèdent au logement social n'ont pas pour projet d'avoir des enfants. Fin de la discussion. Néanmoins, juste un petit mot pour conclure, Virginie Kwok, sur cette loi de sécurité nationale, à part les grands procès dont on parle, qui sont très médiatisés, dont on parle jusqu'ici, le procès des 47 ou celui de Jimmy Lai, est-ce que d'autres plus petits procès, entre guillemets bien sûr, ont cours en ce moment, des personnes qui individuellement sont jugées en vertu de cette loi?
Oui, notamment des affaires liées à ce qui s'est passé, notamment des réunions qui ont été organisées par des étudiants à l'université de Hong Kong, sont des affaires qui ont eu lieu, qui portent sur la violation de la loi de sécurité nationale et qui sont de moins grande envergure que les procès de Jimmy Lai. Le procès de Jimmy Lai, mais par exemple, Jimmy Lai est aussi, on parle toujours de l'affaire où il est accusé pour collusion avec les forces étrangères. Il est aussi dans une affaire de fraude. Et cette affaire-là est toujours en cours. Et justement, ces affaires-là sont en cours et en même temps, et même au niveau des calendriers pour les juges et les avocats, ils doivent se concerter parce que Jimmy Lai doit parfois aller devant tel et tel juge, notamment pour son affaire de fraude. Les avocats doivent aller dans d'autres à la Cour suprême, etc., parce qu'ils sont aussi impliqués dans d'autres affaires portant sur la loi de sécurité nationale.
I don't care about your heck for no 자 모형 그땐 어머 이런 거 갱자 처음은 출근 중과 함께 있어 잡았 요단전선 모였던 긴 요잠이었봐 No more taxi 어젠 거 Bugatti Pagani Tell me all the risk baby yeah. 왜 옆에 반겼어 지지유 감각도 야사나 꼬지우 멋있어지 다 보통 익명한 모한 웬유 전화 옆이 감유 옆이 자탁되어 야대요 All in 또 예뻐 징어 삼차 생천 소리가 소중 되터마 비단 팝몽 팝몽 박대야 파주몽 어문 어문 날보다 앞선 밥만 달고
C'est une nouveauté dénichée par Vision Le Cuivre, le réalisateur de Culture Monde, MC Cheng Timfu. C'est un chanteur et acteur hongkongais qui vient de faire paraître cette chanson Millionnaire Boulevard. C'est le dernier épisode de notre série sur les juges qui font front contre l'extension des pouvoirs de l'exécutif. Aujourd'hui à Hong Kong, où les juges ont de moins en moins de marge de manœuvre face à la chape de plomb progressivement posée par Pékin. À Taïwan, qui n'a pas le même statut, qui est un territoire autonome que la Chine revendique comme étant l'une de ses provinces, eh bien on craint un scénario à la Hong Kong, un effondrement lent de la démocratie et un chantage de Pékin tournant en sa défaveur.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Depuis les élections taïwanaises de janvier 2024, le président Willam Lai est toujours un membre du PDP, le Parti démocrate progressiste, auquel appartenait sa prédécesseure, la présidente Tsai, qui a tenu tête à Pékin deux mandats durant. Mais au Parlement, c'est l'adversaire politique du PDP qui domine, le Kuomintang, allié à un plus petit parti. Ensemble, ils ont récemment fait passer une loi qui régit les procédures de la Cour constitutionnelle, de nouvelles dispositions qui risquent de modifier dans sa nature le système judiciaire taïwanais, comme le craint ici Claire Wang, qui est présidente du New Power Party.
À l'avenir, si d'une part le processus de nomination n'est pas réexaminé et que d'autre part le seuil de vote des juges est relevé du nombre total de présents au nombre total fixé, cela rendrait impossible toute interprétation de la Cour constitutionnelle et elle se trouverait dans l'incapacité de faire son travail. Cette situation porterait atteinte aux fondements de la démocratie et de l'état de droit dans un pays démocratique.
Nous sommes en ligne depuis Taipei avec Paul Jobin. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous, ou bonsoir plutôt. Vous êtes à Taïwan, vous êtes chercheur à l'Institut de Sociologie à l'Academia Sinica à Taipei. Expliquez-nous plus précisément les inquiétudes de cette dame Claire Wang. Que dit cette loi qui est entrée en vigueur le 25 janvier 2025 ?
Alors peut-être une petite présentation de la Cour constitutionnelle qui est en jeu. C'est une branche de ce qu'on appelle le yuan judiciaire. On a cinq grandes institutions qui, pour la République de Chine, donc le nom officiel de Taïwan. Le yuan législatif qui correspond à notre Parlement, qui est une chambre unicamérale, donc c'est comme si on n'avait que des députés. Le yuan exécutif qui est le gouvernement et puis le yuan judiciaire. Alors la Cour constitutionnelle de la République de Chine est composée, donc c'est une branche du yuan judiciaire, est composée de 15 juges avec chacun un mandat de 8 ans. C'est pas des comme les juges de la Cour suprême américaine qui ont un mandat éternel, c'est 8 ans. Et depuis août dernier, 7 sièges sont vacants, 7 juges sont vacants, donc il fallait les remplacer. Et donc le président Lai a proposé sur les conseils de juristes, de juges, de gens compétents, a proposé cette personnalité du monde juridique pour les remplacer. Et comme vous l'avez bien expliqué, au Parlement, le KMT et son allié, le TPP,
Donc Kuomintang et Parti Populaire Taïwanais, l'opposition. Voilà. Enfin, l'opposition. En tout cas, ils sont majoritaires au Parlement, mais ils forment une opposition à l'exécutif.
Voilà. Et ils ont depuis leur arrivée au Parlement en février de l'an dernier, ils n'ont de cesse que de passer en force tout un tas de lois. C'est un petit peu comme si on n'a pas le 49-3, mais c'est un peu la même méthode, quoi. Pas de débat, aucun débat avec les députés du DPP, donc qui ont. Alors, KMT plus TPP à eux deux, enfin KMT a 51 sièges, 2 sièges pour le Parti populaire, 8 sièges pour le Parti populaire plus 2 indépendants, mais qui sont très très soumis au KMT. Donc ils ont une majorité de 60, enfin ils ont une majorité avec 61 sièges sur un total de 113, ce qui est pas énorme. Donc a priori, enfin, mais ils se revendiquent tout le temps comme la voix du peuple, mais ils ignorent complètement l'autre moitié de la population qui ont voté pour le DPP. Et puis, on vient d'entendre Claire Wang, donc, qui est du New Power Party, qui fait un de ces petits partis qui n'ont pas pu accéder au Parlement parce qu'ils n'ont pas passé la barre des 5%, mais qui, auparavant, ils ont joué un rôle important dans le Parlement, dans le précédent mandat du précédent de Parlement. Les petits partis n'ont plus voix au chapitre. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils manifestent autour du Parlement depuis le mois de mai pour soutenir le DPP.
Le DPP, oui.
Oui, mais pas parce que c'est le DPP, mais parce qu'ils ont bien conscience que c'est le dernier rempart contre les projets de loi tout à fait dangereux et iniques que veulent faire passer le KMTGP.
Pour rester vraiment sur la Cour constitutionnelle, notre série porte vraiment sur les juges et la justice. Ça veut dire, vous nous avez bien dit que la Cour constitutionnelle était bloquée pour l'instant. Est-ce que le Parlement, donc le yuan législatif, dominé par ce parti d'opposition au président, en profite pour faire passer des lois où ça ne marche pas comme ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça implique, cette paralysie de la Cour constitutionnelle qui n'a pas assez de juges pour statuer pour l'instant?
Voilà, tout à fait. C'est ce que j'étais en voie de vous dire, mais c'est vrai. Alors, on peut revenir. Pourquoi la Cour constitutionnelle est importante? À mon avis, enfin, je suis pas juriste, si je dis des bêtises, Jean-Pierre Cabestan me corrigera, mais de ce que j'en comprends, comme modeste sociologue, c'est que la Cour constitutionnelle est un élément très important du fonctionnement normal d'une démocratie, mais c'est un des éléments qui signale la situation de quasi blocage de l'État dans laquelle on se trouve, l'État au sens large, c'est-à-dire toutes les institutions. On n'a pas de dialogue efficace entre l'exécutif et le Parlement et le judiciaire, et pour le moment le KMT refuse la nomination de ces juges parce que ils ne veulent pas que les juges refusent les projets de loi qui passent en force, parce que la plupart sont très mal ficelés et beaucoup, enfin, font des entorses flagrantes à la Constitution de la République de Chine.
Notamment, la Cour constitutionnelle a encore eu un rôle quand elle était au complet en octobre dernier, quand elle a repoussé une série de mesures qui visaient à renforcer les pouvoirs législatifs encore, à permettre par exemple des interrogatoires politiques auprès de n'importe quel citoyen, fonctionnaire, dirigeant d'entreprise, personnel militaire au sein de commissions d'enquête parlementaires. Alors, pour l'instant, l'exécutif a quand même un très grand rôle et ce Parlement est dominé à une courte majorité par ceux qui s'opposent au président William Lai et à ses politiques. Les électeurs auraient la possibilité de destituer des députés élus localement s'ils en sont insatisfaits. C'est la procédure dite de rappel. Est-ce que ce type de procédure est en cours actuellement? Est-ce que des députés de l'un ou l'autre de ces partis sont inquiétés par des procédures provoquées par des citoyens qui estiment qu'ils remplissent mal leur mandat de député?
Oui, tout à fait. Alors, devant cette situation de blocage, il y a eu un mouvement social, et c'est là, si vous voulez, c'est là où ça intéresse les sociologues aussi. Quand le législatif est bloqué, quand l'exécutif est bloqué, la rue essaye donne de la voix. Un petit peu comme, moi je pense, suivi de loin, mais ce qui se passait en Géorgie, bien que ce contexte complètement différent, mais où c'était la rue qui, Alors, la composition du Parlement était différente en Géorgie, mais si vous voulez, c'est quand la rue prend le relais du Parlement. Et pour effectivement rappeler le. Alors là, actuellement, il y a une procédure en cours. Alors, c'est une procédure assez fastidieuse, hein, parce qu'il faut. Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est 1% des électeurs demandent l'engagement d'une procédure de rappel. La deuxième étape, c'est 10%. Et puis ensuite, il y a un vote et il faut qu'il y ait plus de la moitié des électeurs qui votent pour le rappel du candidat. Et là, actuellement, il y a des procédures qui sont engagées. Donc, c'est des campagnes de signatures dans la rue pour 31 députés KMT.
Donc, du Kuomintang. Voilà. Oui, le parti, donc, ancêtre, enfin, celui qui se réclame toujours de Tsangtai.
Voilà. Donc, oui. 31. Bon, j'imagine, ça va être difficile de rappeler 31 sur 61. Mais enfin, si déjà il y en avait une bonne dizaine, eh bien, le KMT perdrait sa majorité au Parlement. Et c'est ce qui serait nécessaire pour empêcher pour débloquer la situation.
Kuomintang, parti hérité de Chiang Kai-shek. Peut-être un dernier mot, Paul Jobin, si cette coalition qui regroupe le Kuomintang et ce parti du TPP est sans conteste partisane de la paix avec Pékin, au prix en effet de concessions pour donner des gages au Parti communiste chinois. Est-ce que de véritables liens ont été mis à jour récemment ou on ne fait toujours que les supposer ?
Alors, on a un faisceau d'indices pour ce qui concerne Fu Kunshi, qui est le chef du groupe du KMT Oli Fayuen. Par exemple, une des premières choses qu'il a fait en avril 2024, il est responsable de la préfecture de Hualien, dans l'est de Taïwan, où il y a eu un très fort tremblement de terre. Vous avez peut-être dû en entendre parler. Donc, il y a eu pas mal de destructions, etc. Une des premières choses qu'il a fait, au lieu de s'occuper de ses concitoyens, c'est de filer à Pékin avec une délégation de parlementaires du KMT pour négocier, pour obtenir des logements, des baraques dont on n'avait absolument pas besoin.
Des préfabriqués.
Ça, mais ce n'est pas une preuve de collusion, mais enfin, c'est quand même un faisceau assez fort. Deuxième, alors là, par contre, on a une preuve.
C'est un faisceau assez fort, parce que le gouvernement taïwanais avait déjà livré très largement tous ces faits préfabriqués dont il était besoin, donc ça a été vu et commenté comme
non,
tel.
Non, mais même pas, il n'y avait même pas besoin de préfabriquer. Il y a suffisamment d'hôtels en dur à Hualien pour. Il n'y avait pas tellement de destruction, il n'y a pas eu beaucoup de victimes.
D'accord.
Et alors, deuxième preuve, là, pour le coup.
En quelques mots, s'il vous plaît.
Oui. Ouais, très rapidement, c'est contre Ke Wen-je, qui est le chef du Parti populaire, qui lui est actuellement en prison pour une affaire de corruption, et parce qu'il a utilisé l'argent qu'on lui avait donné pour les élections pour s'acheter un appartement de luxe en Taipei. Bon, mais alors, grâce à ce procès, on a su qu'il avait reçu le soutien de Taipei pour un ticket président-vice-président avec l'homme d'affaires Ko Tae-ming, qui est aussi membre du KMT.
Donc
là, si vous voulez, on a une preuve vraiment très, très, très sûre de cette collusion avec Pékin.
Merci beaucoup, Paul Jobin. Merci d'avoir été avec nous. Oui, pardon, on doit s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous depuis Taipei. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut de sociologie à l'Academia Sinica. Je remercie aussi Virginie Kwok d'avoir été avec nous, ainsi que Jean-Pierre Cabestan, qui était en liaison avec nous depuis Hong Kong et qui a publié Deng Xiaoping, révolutionnaire et modernisateur de la Chine, aux éditions Talendier. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et ce matin, Catherine, une étude inquiétante sur la santé des femmes enceintes à Pékin.
Elles présentent, comme leur bébé, des taux de lithium anormalement élevés, jusqu'à 20 fois supérieurs à ceux d'autres villes industrielles chinoises, alerte le South China Morning Post, qui relaie une étude publiée dans le Journal of Ecotoxicology and Public Health, relayée également par la Société américaine de chimie. Une étude qui ne fait pas d'ailleurs les gros titres de la presse chinoise inféodée au pouvoir. Pourtant, une telle concentration de métaux dans le sang de cordon ombilical et dans le sang maternel, plus de 13 microgrammes par litre, est lourde de conséquences. À forte dose, le lithium provoque des complications neurologiques, rénales et thyroïdiennes, précise le South China Morning Post, publié à Hong Kong. Est-ce une pollution liée à la nourriture, à l'eau ou à l'air ? Pékin abrite en tout cas l'une des plus grandes usines de batteries au lithium du pays, indique le South China Morning Post et le site allemand Table Media. Cette usine a été mise en service en octobre dernier dans le cadre d'un plan national visant à dominer dominer le marché mondial de la transition énergétique. Alors que cette demande mondiale de lithium devrait être multipliée par 40 d'ici à 2040, souligne le South China Morning Post, les spécialistes de l'environnement préviennent que jusqu'à 80% du lithium extrait pourrait s'infiltrer dans les écosystèmes. La Chine, elle, étend son réseau minier mondial, comme le montre un long reportage interactif de la Süddeutsche Zeitung en Allemagne. Pékin a conclu d'énormes contrats, notamment en Amérique du Sud, dans le triangle du lithium entre le Chili, la Bolivie et l'Argentine, où se trouve la moitié des réserves mondiales. Et la ruée vers l'or blanc du lithium cause des tensions environnementales, j'en parlais l'an dernier, avec les peuples autochtones en Argentine, au Chili et en Bolivie, des autochtones attachés à leurs terres et à une eau de qualité.
Donald Trump suspend pendant un mois les droits de douane de 25% sur les voitures en provenance du Canada et du Mexique, histoire de rassurer les marchés, Catherine.
Lors d'une réunion hier avec le président républicain, les patrons de Ford, General Motors et Stellantis ont expliqué que les surtaxes sur les pièces détachées en provenance du Canada et du Mexique allaient engendrer des milliards de dollars de surcoûts et anéantir tous les bénéfices de leurs entreprises, explique le New York Times. Pas de concessions, en revanche, accordées aux agriculteurs. Buckle up, farmers. Il va falloir vous accrocher, a prévenu Donald Trump dans son discours devant le Congrès avant-hier. Le président proclame son amour pour les agriculteurs américains, mais apparemment, il aime davantage les droits de douane, s'inquiète un éditorial du Wall Street Journal. Résultat, les prix à la consommation vont encore augmenter. Un tiers environ des fruits et légumes frais vendus aux États-Unis proviennent du Mexique, tout comme la bière Especial de Modelo, la plus vendue aux États-Unis. Hausse des prix également des télévisions importées de Chine, de l'énergie venue du Canada, et le Wall Street Journal enfonce le clou. Qu'est devenu l'intérêt affiché par le Parti républicain pendant la campagne présidentielle pour la classe ouvrière? Ces tarifs douaniers sont une claque pour les électeurs de Donald Trump, écrit encore le quotidien économique. Et à Cannon Falls, dans le Minnesota, Marie Lundell, qui produit du maïs et du soja dans sa ferme familiale centenaire du Midwest, dépend des engrais venus du Canada. Ces importations représentaient d'ailleurs 80% de l'approvisionnement des États-Unis l'an dernier, précise la chaîne télévisée ABC 6 News. C'est difficile parce que lorsque vous achetez de la potasse, vous êtes à la merci du Canada, explique Mary, agricultrice du Minnesota. Et on n'a aucune idée maintenant de ce qui va se passer dans cette guerre commerciale, de la hausse des prix, sachant que les intrants coûtent déjà très cher. Les nouveaux tarifs douaniers de Donald Trump vont rendre les choses encore plus difficiles, estime ABC 6 News. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, candidat démocrate perdant à la vice-présidence, craint lui de voir la Chine se reporter vers le Brésil et l'Argentine, comme lors du premier mandat de Donald Trump, alors que les exportations du Minnesota vers le Canada et le Mexique s'élèvent à plus $1 milliard par an pour chaque pays, précise CBS News. Donald Trump insiste, lui, il faut de la patience, il faut attendre que les circuits de production et de distribution se concentrent sur les seuls États-Unis pour que la santé économique du pays retrouve des couleurs. Mais la pilule est bien amère dans les vergers du Missouri et les champs de soja de l'Arkansas dans le Midwest et le sud des États-Unis. La chaîne Kate relaie les inquiétudes et les frustrations des agriculteurs, y compris ceux qui ont voté Trump à la présidentielle. Beaucoup de stress aussi sur la côte Est, chez les producteurs laitiers de l'État de New York, à la frontière avec le Canada. La chaîne télévisée 7 News et l'Université de Cornell estiment que la hausse des tarifs douaniers, la baisse de la consommation et les expulsions d'immigrés clandestins qui font tourner l'industrie agroalimentaire aux États-Unis pourraient coûter aux seuls producteurs laitiers $6 milliards au cours des 4 prochaines années. La frénésie de taxes douanières de Donald Trump et le triomphe de l'idéologie sur le bon sens, conclut le Wall Street Journal, qui espère que le président républicain reviendra bientôt à la raison.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Demain, dans Culture Monde, vous retrouverez Mélanie Chalandon pour la table ronde du vendredi, l'Ukraine face à la pression maximale des États-Unis. Mélanie Chalandon recevra Annie Daubenton et Joseph Henrotin pour en parler. Table ronde précédée d'un retour de Cisjordanie et d'Israël avec Solène Chalvon-Fioriti qui rentre de ces territoires et qui a fait le portrait de femmes dont la vie a été bouleversée par les pogroms du 7 octobre, puis par la guerre à Gaza. Dans un instant, les midis de culture.